Écrire l'expérience avec Philippe Forest et Camille Laurence.
Donc je ne présente pas les deux écrivains qui sont à cette table, je vais laisser le soin aux modérateurs de le faire. En revanche, je vais présenter les modérateurs en continuant cet effort de croisement, de rencontre, d'hybridation des approches qui nous tient à cœur, comme nous le disions tout à l'heure avec Sylvie. Nous avons souhaité, c'est le cas depuis le début des enjeux, depuis la première année, première session, qu'interviennent aussi des spécialistes, des lecteurs, des grands lecteurs de littérature française étrangers, et qui nous apportent l'originalité parfois de leur regard sur notre littérature. Et j'ajoute d'un mot très vite qu'en plus, cela me tient particulièrement à cœur, car s'il peut y avoir aujourd'hui dans les universités françaises des travaux, des cours, des recherches, des séminaires, etc., sur la littérature qui s'écrit maintenant, sur la littérature contemporaine, c'est grâce à nos amis étrangers qui ont été les premiers à s'y intéresser et qui ont fini par nous aider à convaincre l'institution française assez rétive à cela, puisque en France, l'université est plus un conservatoire qu'un laboratoire. Ils nous ont aidés finalement à convaincre nos collègues qu'on pouvait aussi travailler sur des écrivains vivants, que les bons écrivains n'étaient pas simplement des écrivains morts. Voilà. Et donc, je suis content de présenter à la fois Gabriella Bosco, qui est professeure à l'Université de Turin et qui, comme tout à l'heure Jean-Max Collard, cultive une double compétence, puisqu'elle écrit aussi dans la Stampa, et Michael Sheringham, professeur à l'Université d'Oxford, à qui il est arrivé d'écrire aussi dans le TLS. Donc voilà, nous avons des modérateurs qui sont à la fois étrangers, chercheurs et critiques littéraires, ce qui est quand même beaucoup de compétences pour interroger Camille Laurence et Philippe Forest. À vous.
Merci Dominique. C'est moi qui vais commencer. En fait, on ne va pas vraiment présenter les écrivains puisqu'on va discuter avec eux et vous les connaissez déjà, en tout cas vous allez les connaître. En fait, ce que je vais faire pour lancer cet entretien, et avant de passer la parole à Gabrielle qui va poser la première question, je voudrais faire quelques petites remarques sur la notion d'expérience. Qu'est-ce qu'on désigne, qu'est-ce qu'on vise quand on fait appel à ce mot, à ce concept? Irrésistiblement, peut-être, on songe au vieux Montaigne, à cet essai incontournable de l'expérience, somme de toute une vie, mais surtout sommet d'une longue expérience vécue et d'une longue expérience du jugement et de l'écriture. Or, je pense qu'avec Montaigne, on tombe tout de suite sur la profonde ambivalence de la notion d'expérience, de sa grande richesse aussi, parce que si pour Montaigne le mot d'expérience renvoie à la plénitude de ce qu'il a appris en vivant, à un capital, un savoir qui est aussi un avoir, il n'empêche que le même terme renvoie à ce qui refusera à jamais toute accumulation, à tout avoir, au caractère inépuisable de l'événement dans sa singularité, à ce qui résiste à toute exercitation, comme le dit Montaigne à propos de son expérience de la chute lorsqu'il était tombé de son cheval et avait fait l'expérience du vide, du coma, de la syncope. Je dirais donc que dans la littérature, qui souvent, pendant le long période, l'ignore, ne veut pas s'y confronter, préférant tous les charmes de la fiction, l'expérience est surtout ce qui résiste, non pas ce qui s'accumule, se chiffre, mais au contraire ce qui échappe à tout calcul, à toute prise définitive. Et dans le cadre de notre modernité, je crois que si on passait en revue les visages de l'expérience, on trouverait toujours cette résistance, cette opacité, même dans des visions dévisées apparemment contradictoires. Dans l'avant-garde des années 20 et 30, par exemple, chez Artaud, puis chez Bataille, c'est dans les affres de la perte de soi, dans l'extrémité de la dépense ou de la folie, dans ce qu'on désignera plus tard comme l'expérience des limites, qu'on trouvera le visage de l'expérience. Tandis que, chez un André Breton, il s'agit plutôt de ce que Michel Foucault appelle la découverte du domaine de l'expérience, dans le hasard, l'aléa, dans le tout venant de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas. Dans le surréalisme, l'expérience se fait ouverture vers le merveilleux, ouverture sur la vie à perte d'haleine, comme disait Breton. Mais au fond, ces deux lignes, Bataille, Breton, se rejoignent, puisque, comme l'a si bien montré Maurice Blanchot, il s'agit toujours d'expériences qui nous désapproprient, devant lesquelles nous sommes démunis, auxquelles nous sommes soumis, sujets. Tout au long du siècle dernier, et jusqu'aujourd'hui, le fil rouge de l'écriture de l'expérience, me semble-t-il, est perceptible chez Léris, chez Jacques Roubaud, chez Marguerite Duras, chez Ernaud, chez Michon, chez Quignard, et encore plus près de nous, ici même, chez Camille Laurence et Philippe Forest, dont l'œuvre considérable, déjà, témoigne, me semble-t-il, de cette fascination pour le vécu, le réel, ce qui arrive ou n'arrive pas, bref, pour ces territoires de l'expérience dans leur rapport à la pensée et à l'écriture, territoires que nous allons donc maintenant explorer avec eux. Gabriel.
Merci Michael d'avoir accepté de introduire à moi maintenant de lancer le débat. Et pour le faire, je voudrais évoquer moi aussi Borges, comme l'a fait Dominique Biard ce matin, invité par le Collège de France pour faire une conférence, je ne sais plus en quelle année. Après la conférence, quelqu'un du public lui a posé une question et lui a demandé « Quelle relation voyez-vous entre l'art et la vie ?» Et il a répondu de façon très lapidaire, « Malheureusement, aucune. » En citant Philippe Forest, je dirais que je raconte cette anecdote et je l'invente aussi parce que je n'ai pas tellement les dates et les éléments, mais je crois que c'est ça. Cela dit, on pourrait très bien réfléchir longuement sur cet adverbe employé par Borges, ce que je ne ferai pas. Et j'enchaîne par contre en proposant une autre question que je me pose à chaque fois que je lis un nouveau roman, un roman qui vient de paraître, chose que je fais assez souvent en raison de mon travail. C'est une question naïve, tout comme la question de l'auditeur de Borges, et en tant que telle, également difficile ou impossible. Mais j'y vais quand même. À chaque fois que je lis un roman qui vient de paraître, je me demande, la question que je me pose est qu'est-ce un roman aujourd'hui ? Et c'est une question à laquelle il est impossible de répondre, ou du moins il est impossible d'y répondre de façon univoque. Alors je pourrais dire que, en ce qui concerne les auteurs que nous avons là, Philippe Forest et Camille Laurence, je crois que tout roman, la réponse que je me donne est que tout roman qu'ils écrivent est une histoire d'amour. Et j'ajouterais aussi une histoire d'amour qui se termine. Chaque roman se termine en effet par un deuil, la constatation d'un deuil, le deuil d'un désir, pour employer les mots que Camille Laurence utilise dans son dernier roman, Romance nerveuse. Mais cette même histoire d'amour qui se termine à la fin du roman rebondit et renaît dans le roman suivant. Il s'agit donc, réponse à la question « qu'est-ce un roman aujourd'hui ?», toujours de la même histoire d'amour qui revit de roman en roman. Et alors là, il y a une deuxième question que je me pose à chaque fois et qui concerne le statut de l'écrivain. Pour le dire de façon plus naïve, plus comme l'auditeur de Borges, qui est l'écrivain ? Ou alors, pour le dire encore d'une autre façon qui est très connue, qui dit ça ? Et alors, je m'adresse, c'est à Camille Laurence que je poserai la première question. Dans Romance nerveuse, elle parle de l'écrivain avec un grand G, le grand-père du personnage masculin l'été. Et elle en parle comme de quelqu'un, je cite, « qui sacrifie les gens à lui-même ». Mais en même temps, il y a, toujours dans Romance nerveuse, un tout petit écrivain qui n'a que 10-12 ans, un élève de collège, un collège où le personnage féminin, Camille Laurence, va animer un atelier d'écriture. Cet élève, donc écrivain pour la première fois de sa vie, doit choisir un mot. C'est comme ça que ça a été organisé le travail. Et il doit faire de ce mot le noyau sonore ou sémantique d'un texte bref. Et l'élève choisit le mot « invincible » et le texte qu'il écrit est le suivant « Je suis invincible ». Alors, Camille Laurence, l'écrivain, est à la fois quelqu'un qui sacrifie les gens à lui-même et quelqu'un d'invincible, se servant du roman pour dire non à la mort.
Oui, d'abord, je voudrais faire une petite précision, mais qui a son importance. C'est le personnage masculin dans Romance nerveuse qui dit à la narratrice, qui lui demande ce que c'est pour lui qu'un écrivain, et il répond, un écrivain, c'est quelqu'un qui sacrifie les autres à lui-même. Alors, moi, en tant qu'auteur du roman, c'est aussi par provocation et pour interroger cette idée-là qui m'est souvent opposée, que je l'ai formulée à l'intérieur même du roman. C'est-à-dire que ce n'est pas une phrase que je reprends à mon compte comme ça, de manière brute. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout le sentiment de sacrifier les autres à moi-même quand j'écris. Mais effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, cette question qu'on adresse